Et on retrouve tout de suite Mélève et Malka, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Bonsoir à tous, Bernard Aboif au micro. On se retrouve pour Mélève et Malka, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne avec Raveli Lemel. Rav Lemel, bonsoir et Shavuot Tov.
Bonsoir et Shavuot Tov.
Rav Lemel, vous voulez poser une question aujourd'hui dans notre paracha qui parle des rêves de Yosef, qui parle ensuite des rêves de Pharaon. Mais à propos, on a tous envie de savoir quelle est la signification de nos rêves, que dit la Torah sur nos rêves. Ce que on peut, ce que des fois on dit, moi je sais pas, j'entends des fois, il est venu me voir dans mon rêve. Qu'est-ce que dit la Torah sur les rêves? Voilà un sujet que tout le monde veut entendre.
Exact, c'est vrai qu'on est dans des parachutes dans lesquelles on va parler donc des rêves. On a parlé des rêves de Yosef, Joseph qui rapporte ses fameux rêves à ses frères. Et puis après, on va retrouver l'univers des rêves de nouveau avec les rêves du Pharaon, les rêves du maître panetier, de les chansons. Et on se rend bien compte que là-bas, il y a eh bien, tout un sujet qui est en train de se passer, puisqu'on parle aussi de leur interprétation. Alors, au niveau des frères, ils interprètent. Ils disent, bon, bien, au fond, tes rêves signifient que tu as envie de prendre le pouvoir. Et puis, on a ici, après, les rêves du panetier, du maître et chansons que Yosef va interpréter. Puis, ces fameux rêves du pharaon que personne n'arrive à interpréter. Puis, Yosef va lui donner l'interprétation qu'il satisfait parce qu'il va réaliser quand il lui donne l'interprétation qu'il avait rêvé lui aussi de cette interprétation, mais il avait oublié. Alors, évidemment, qu'est-ce que c'est le rêve? Quelle est la lecture que l'on peut en faire? Et pour cela, eh bien, on a des textes. On a un texte du Talmud très intéressant dans le traité de Brachot, dans lequel eh bien, on nous parle des rêves. Alors, tout d'abord, ce qui est intéressant, c'est que celui qui va beaucoup parler des rêves, et ça, c'est une interprétation complètement personnelle. Quand je dis complètement personnelle, je n'ai pas vu marquer ça quelque part, donc ça vaut ce que ça vaut. Mais ça m'a interpellé, puisque celui qui parle beaucoup des rêves, c'est un maître qui s'appelle Rav Rizda. Et Rizda vient de la racine Chesed. Chesed, c'est de la bonté, un don, apporter quelque chose. Et en effet, quand on va rentrer dans le sujet des rêves, on va réaliser que la Torah nous explique que eh bien, le rêve, c'est là pour nous apporter quelque chose, une interpellation, un message. C'est là pour nous faire progresser. C'est là pour nous donner un élément dont on a besoin. Et le texte du Talmud eh bien, va nous ouvrir à plusieurs dimensions dans les rêves. Et c'est ça qui est très intéressant. Tout d'abord, ils vont nous dire qu'un rêve non interprété serait à l'image d'une lettre qu'on vous a envoyée, mais que vous n'avez pas ouverte. Traduction, il y a dans le rêve, en effet, sûrement une dimension qui est celle du message. Mais on a le droit de ne pas vouloir voir le message. C'est intéressant de voir qu'on a cette liberté. Ça, c'est déjà la première dimension. Et puis après, évidemment, on va nous parler de ce que l'on croit être des bons rêves ou des mauvais rêves en nous disant que ben, ce n'est pas si sûr que ce que l'on voit comme étant mal, nécessairement mal, est le contraire. Donc déjà, ne pas tomber dans des lectures qui pourraient, au fond, eh bien, soit être source d'anxiété, soit générer d'autres problématiques. Je vais donner un exemple très simple. Quelqu'un qui se voit en rêve en train d'être dans l'eau, mais en train de se noyer. Alors, évidemment, ça peut être très anxiogène, mais nos maîtres ne disent pas du tout. L'eau, c'est le symbole de la spiritualité, c'est le symbole de la Torah. Au contraire, peut-être que ce rêve est en train de dire que cette personne a une aspiration profonde à aller vers le monde du spirituel. Et puis, de toute façon, « En chalom belo dvarim betelim » disent les maîtres du Talmud, il n'y a pas de rêve sans choses qui ne veulent rien dire. Donc de toute façon, dans le rêve, il y aura toujours une partie qui n'a aucun sens. De la même manière, on va nous expliquer et on va nous dire que le rêve impossible, dans la série « L'éléphant qui passe à travers le chat d'aiguille », eh bien, ça ne veut strictement rien dire, voire même se poser la question. Et d'ailleurs, certains disent que peut-être qu'on a un peu trop bu la veille au soir, on a peut-être un petit peu trop mangé. Et donc, ce ne sont pas des rêves qui ont du sens. Néanmoins, on va avoir quelque chose de très intéressant, c'est que la Gemara donc, va nous donner beaucoup de symbolique. Par exemple, quelqu'un qui rêve dans son rêve, en tout cas qui soit dans son rêve mordu par un serpent, mais c'est peut-être une ouverture pour le monde de la richesse. Alors, Évidemment, il faudrait prendre le temps pour expliquer pourquoi, mais on va nous citer un verset de Daniel. Ce verset de Daniel, Daniel, vous savez, c'est quand même ce texte qui est très, très complexe à comprendre, dans lequel se retrouve en effet toute la fin de l'histoire. Eh bien, le texte nous dit « Ant malka rayonech al mishkafra saliku »« Dis-toi le roi al mishkafra sur la couche, c'est-à-dire sur le lieu sur lequel tu dors, eh bien rayoncha, tes pensées saliku remontent. » Et Rashi, sur place, va nous dire la chose suivante « Mashe adam meharher bayom » Marine Lobalaila, ce qui veut dire ce que l'individu pense, mais pas une pensée active, c'est-à-dire hirour, c'est quelque chose qui vous agite, c'est ces sujets qui nous préoccupent, qui sont présents dans notre esprit, eh bien, remontent à travers le rêve. Et j'ai l'impression, en tout cas, qu'il y a peut-être ici une ouverture sur tout l'enjeu de l'inconscient, dont on parle d'ailleurs par ailleurs dans le Talmud. C'est-à-dire que, oui, il y a en effet des rêves qui sont révélateurs d'une problématique qui nous agite et qui est en train de revenir. Donc, comme on voit, on a quand même pas mal d'ouverture vers le rêve. On a d'abord la possibilité de ne jamais vouloir l'interpréter. Il y a peut-être là-dedans un message, mais encore faut-il savoir l'interpréter. Et interpréter positivement va être un élément fort. Le Talmud va nous dire... Si on n'a personne pour l'interpréter et que le rêve est source d'anxiété, eh bien, au moment où les Kohanim, les prêtres, sont en train de bénir le peuple, eh bien, on a une prière à dire que tous nos rêves ne soient que positifs. Parce que les Kohanim, au moment où ils nous bénissent, eh bien, sont dans un désir que tout soit positif pour nous. Eh bien, il en est de même à ce moment-là et cette prière a une force. Néanmoins, on a quand même, et comme je viens de vous le dire, cette possibilité de réaliser que le rêve fait remonter quand même quelque chose qui se situe au niveau de l'inconscient, des questions que l'on peut avoir, des anxiétés ou au contraire des attentes. Et ça, ça va être passionnant. Et puis, après le Talmud, dans la description de toutes les symboliques, eh bien, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais à un moment, va nous donner des exemples de rêves dans lesquels il y a des choses qui sont un peu borderline, qu'on peut voir. Et le Talmud nous dit, ben, ça peut apporter et ça peut ouvrir des choses extraordinaires. Pourquoi ? Il dit à partir du moment où la personne n'a pas eu des pensées borderline dans son esprit, eh bien, le fait de voir des choses qui sont parfois un petit peu surprenantes, eh bien, ne sont pas du tout nécessairement négatives. Au contraire, elles peuvent ouvrir à une aspiration très, très élevée au niveau spirituel, au niveau de la Torah, au niveau de beaucoup d'autres choses. Maintenant, et je conclure là-dessus, la Gemara nous dit quelque chose de très intéressant. Elle nous dit que « Halan shivayamim belo chalom nikraara » quelqu'un qui, pendant 7 jours, n'a pas fait de rêve, est appelé « ra », un homme mal. Alors, c'est quand même curieux, parce qu'on est plein quand même à pas rêver ou alors oublier nos rêves. En vérité, comme nous l'avons vu au début, le rêve, c'est quoi ? Le rêve, c'est quelque chose qui nous interpelle, c'est quelque chose qui nous touche. Alors, pas nécessairement de manière difficile, mais c'est quelque chose qui nous amène, qui nous peut très légèrement nous déstabiliser, mais pas au sens négatif. Quand je parle de déstabilisation, c'est pas qu'on se sent mal, mais on dit « tiens, qu'est-ce qu'on est en train de me dire ? Tiens, qu'est-ce que je peux en apprendre ?» Voilà. Et on dit quelqu'un qui vit une période de 7 jours sans que rien ne l'interpelle, eh bien, au fond, c'est quelqu'un « ra » qui est mal, parce que vous savez que le contraire du mot « mal », c'est « ayin resh », vous prenez les deux lettres et ça fait R. R, c'est être conscient. C'est quelqu'un, au fond, qui n'est plus conscient de la dimension impliquante des choses. C'est quelqu'un qui, au fond, s'est enfoncé dans un quotidien dans lequel il n'a plus envie d'être interpellé. Quand quelqu'un ne veut plus être interpellé, ben, on n'interpelle plus. Et donc, c'est intéressant de voir que quand on reste 7 jours sans rêve, ce n'est pas nécessairement sans rêve, c'est-à-dire sans que rien ne nous amène à réfléchir. Et on soit bien clair, ces choses qui peuvent nous amener à réfléchir, ça peut être des choses ultra belles, ultra positives, mais qui sont là et qui nous poussent à progresser. Et peut-être que c'est ça qu'au fond, on est en train de nous dire avec ce maître qui s'appelle Rav Rizda. Un rêve, au fond, c'est une forme de cadeau que l'on nous fait parce qu'il va être source de mouvement. Et au fond, c'est extraordinaire parce que lorsque vous êtes confronté à quelque chose qui génère chez vous une nécessité de mouvement, eh bien, ça veut dire que vous êtes vivant, ça veut dire que vous pouvez progresser, ça veut dire que vous pouvez grandir. Et ça, au fond, c'est quelque chose de capital.
Alors là, c'est la fin qui fait toute la dracha. Vraiment, entendre ça. Parce que quand je vous entendais, je me disais, mais oui, mais est-ce qu'on a le droit de croire à nos rêves ? Pendant que je vous écoutais, est-ce qu'il va répondre à cette question ? Parce qu'un homme qui n'a pas de rêve, franchement, c'est triste. Et vous avez donné la réponse à la fin. Donc on n'est rien si on n'est pas en capacité de rêver. Ravelli Lemel, je vous remercie pour ces très belles paroles. Vous voulez ajouter quelque chose peut-être à ce que je viens de vous dire?
Oui, il y a aussi les rêves que l'on décide d'avoir, c'est-à-dire le fait qu'on a envie de se projeter dans quelque chose. Alors, c'est fondamental, mais en même temps, la vie, c'est pas rejoindre un rêve, c'est découvrir ce qu'on est en train de construire. Le rêve, dans sa dimension de projection sur ce qu'on voudrait que soit la vie, c'est peut-être pas la meilleure des choses. Parce que sinon, si toute notre vie on recherche à rejoindre quelque chose qu'on a imaginé, on risque de jamais le découvrir. Par contre, quand on avance et qu'on progresse et qu'on se laisse interpeller, et qu'à partir de là on est en mouvement, c'est là justement on découvre quelque chose qui est merveilleux.
Magnifique. Ravelli Lemel, je vous remercie et je vous souhaite une belle semaine pleine de rêves. Ne revenez pas dans 7 jours en me disant j'en ai pas eu. Et je et
De bons
Shabbat
rêves.
Tov. Et nous sommes en ligne à présent à Jérusalem avec Rav Mordechai Bitton. Bonsoir Rav Mordechai et Shavua Tov.
Shavua Tov, Shavua Tov, Bezrat Hashem, on se souhaite des bonnes
Des
nouvelles
bonnes
pour nous tous,
choses.
pour tout Israël.
Des bonnes fêtes de Hanouka avec plein de
Bien
lumière.
sûr,
On y va
Hanouka
là,
Sameach,
c'est
bien
sûr.
entendu.
On y va, c'est sûr. Rav Mordechai Bitton. Justement, tiens. On sait que la paracha va toujours de pair, sous une forme ou sous une autre, avec l'actualité. D'ailleurs, souvent on cherche, dans des mariages, on regarde. Bon, c'est lié à la semaine. Et cette semaine, il y a un prisonnier qui sort du trou, qui sort d'un tunnel. Alors, on aurait bien envie d'avoir des bonnes nouvelles. Quel est le lien, vous pourriez traduire, vous pouvez voir, tracer entre même l'actualité d'ailleurs, entre notre vie et la paracha.
Regardez, dans le chapitre 41, verset 14, il est écrit là-bas la manière dont la libération de Yosef s'est faite. Yosef a donc été vendu par ses frères, il atterrit chez Potiphar, là-bas il a eu des démêlés avec la femme de Potiphar, il se retrouve en prison. Et dans cette paracha, on nous raconte sa libération, qui n'intervient pas au terme d'un processus de négociation ou quoi que ce soit. D'un seul coup, chapitre 41, verset 14, Paro envoie chercher, il appelle Yosef. On lui a dit qu'il était capable d'interpréter les rêves. Or, Paro arrivé, il ne sait pas interpréter les rêves. Il ne trouve personne pour les interpréter. Et là, Vayeritsuhu Minabor, on l'a sorti précipitamment, on l'a fait sortir en courant du trou. Et on l'a rasé, nous dit Rashi, pour le respect du roi. Et on le présente devant le roi, habillé, pomponné, tranquillement. En une journée, il est libre. Alors, l'année dernière, à pareille époque, j'avais dit. La paracha a toujours une influence sur l'actualité, soit au niveau du remez, de l'allusion, soit au niveau du sod, soit au niveau du secret de la paracha. J'avais dit, on était déjà avec les otages, j'avais dit, des otages seront libérés, Bezrat Hashem. On va prier pour que cette influence se pose.
Amen.
Effectivement, il y avait eu 3 otages libérés, mais malheureusement, ils avaient été abattus donc, par les soldats israéliens. Et ça nous a permis de l'occasion de découvrir la grandeur d'âme d'une femme en Israël qui s'appelle Iris Raïm, la maman d'un des trois soldats. Alors je voudrais formuler exactement la même prière cette fois-ci. Et surtout que cette fois-ci, on parle de négociation et on parle de libération des otages. Et donc je voudrais souhaiter que ce passouk-là pose son influence sur l'actualité. Alors le Sforno commente ce passouk qui dit la chose suivante. Il faut savoir que cette libération qui s'est faite de manière aussi extraordinaire et aussi précipitée, elle est à l'image de toute libération d'Israël. Et il dit que la libération d'Égypte, par exemple, c'est la même chose. Les Bnei Israël sont sortis, Pharaon est venu pendant la nuit, et leur a dit « Sortez maintenant immédiatement », et leur patte n'a pas eu l'occasion de lever, elle n'a pas eu la possibilité même de lever. On mange de la matzah, pour se souvenir, entre guillemets, de ce grand pique-nique. Mais il cite d'autres sources, dans Yeshaya, dans Tehilim, où on voit qu'effectivement, c'est la propriété même et la marque de fabrique même de la libération d'Israël, de venir, et même dans l'histoire de Pourim, par exemple, de venir de manière toujours très inattendue. On voit les situations se retourner en l'espace de quelques heures ici pour Yosef, de quelques jours pour le temps d'un festin pour Aman, Esther et Mordechai. Et maintenant, dans l'époque qu'on vit, on voit les choses se retourner, par exemple, quand on voit où on était il y a un an, on voit où on est aujourd'hui. en quelques semaines, et on peut dire même à partir du moment de la chute de Bachar el-Assad, dans l'espace de 11 jours, tout s'est retourné. Et le monde entier aujourd'hui dit, bon, bah, de toute façon, Israël bombarde au Yémen, bombarde en Syrie, bombarde, voilà. Et c'est comme si, en quelque sorte, maintenant, tout le monde était scotché. Et on assiste à un retournement qui est à l'image des moments de libération du peuple juif. Alors, il faut s'intéresser à ça. Pourquoi ces retournements se produisent de cette manière-là? Alors, nos sages, ils nous disent que les plus grandes choses et les plus belles choses se produisent très souvent, be'essiyah hadat. C'est quoi le essiyah hadat? C'est le moment où, finalement, le discernement de l'homme n'est pas réellement mêlé à un événement. Vous voyez, par exemple, tout le monde a été très surpris par la chute de Bachar el-Assad en 11 jours. C'est un processus absolument incroyable. On peut dire plein de choses au niveau géopolitique, mais tous les spécialistes ont été scotchés et doublés. Aujourd'hui, ils viennent, ils commentent, mais en vérité, personne n'avait prévu. Dans le ciel, on avait prévu que les choses se retourneraient de cette manière et que ça favoriserait Israël et que ça serait bon pour Israël. C'est à l'image de ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'à un moment donné, l'évidence de la main divine apparaissent dans le désordre événementiel. Je répète cette phrase. L'évidence de la main divine apparaissent dans le désordre événementiel. L'évidence de la main divine, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la Hashgacha d'Hachem, l'intervention d'Hachem, elle ne se fait plus sous une forme cachée, voilée. Elle se fait sous une forme dévoilée. Et elle doit se faire de cette manière parce qu'à un moment donné, il doit y avoir un accélérateur à la fois spirituel et historique. Nos sages nous disent que quand on entend parler de guerre, on doit savoir qu'on est dans un processus messianique. Il y a eu beaucoup de guerres depuis l'apparition de l'humanité. Mais dans les périodes, dans la période pré-messianique, une guerre, ça veut dire une accélération messianique de l'histoire. Et effectivement, dans ce qu'on vit, il y a quelque chose qui est un petit peu messianique au sens où Hachem intervient en direct et les événements se retournent alors que les spécialistes, les militaires, les géopolitiques, les spécialistes du renseignement sont doublés par l'événement. Je disais à quelqu'un qui avait l'habitude de lire le Yated Nehman ici le mardi, on le reçoit le mardi ici, truc. Il le lisait, je lui dis, mais tu sais pas que ce que tu lis aujourd'hui, c'est déjà caduc demain. On lit des journaux aujourd'hui, demain c'est déjà fini. Ça n'a plus de sens de lire le journal aujourd'hui, parce que demain est autre chose. L'actualité va très vite. Donc on est dans une accélération. Et c'est la forme même de l'histoire juive, parce que historia, c'est esterka, c'est Hachem qui est caché dans l'histoire, et qui à un moment donné, effectivement, révèle sa présence. Les hommes s'agitent, les hommes font des plans, les hommes réalisent des projets, bien entendu. Ils font ce qu'on appelle une ishtadlout. Ils se battent, ils avancent. Mais qu'est-ce que ça serait tout ça sans l'intervention d'Hachem et qu'est-ce que ça serait tout ça sans les coups d'accélérateur que Hachem donne dans l'histoire? Alors c'est un petit peu, si vous voulez, l'histoire de la libération de Yosef. On applique ici en même temps, une fois de plus, le principe que j'ai cité dans chacun des cours, « Maaseh Avot Siman Labanim ». Ce qui est arrivé au père du peuple juif, et Yosef est un des quatre pères du peuple juif, car il y a quatre pères pour le peuple juif, pas seulement trois. Abraham, c'est le premier converti, Yitzhak, c'est le premier enfant juif, et Yaakov, c'est celui dont tous les enfants sont juifs, et Yosef, c'est celui qui refuse d'aller avec la femme de Potiphar pour ne pas avoir des enfants non juifs. C'est la résilience familiale, spirituelle, dans la galoute, dans l'exil. Et ben Yosef, lui, il va subir un processus de libération qui est à l'image de la libération que les Juifs dont les Juifs vont bénéficier au moment de la sortie d'Égypte, et à l'image de la libération finale, celle pour laquelle on prie, qui arrivera de manière complètement inattendue. On a cette intuition que finalement le Mashiach va nous surprendre. Les gens font des plans, les gens annoncent des choses, les gens essayent de faire des corrélations. Tout ça ne marche pas. D'ailleurs, dans la paracha de la semaine dernière, on voit bien que, je conclue avec ça, alors que Yosef était vendu, il était jeté en Égypte, que Yehuda avait été balancé par ses frères qui lui ont dit si tu n'avais pas le vendre, on ne l'aurait pas vendu. Réhouven était en train de faire teshuva, je ne sais pas où, Yaakov était dans son deuil, les frères étaient dans la peine. Pendant ce temps-là, dans le dos de tout le monde, Hachem était en train de faire en sorte que Yehuda était avec Tamar et que naisse le Mashiach dans des conditions complètement inattendues. Parce que tout ce qui est lié au Mashiach, à l'avènement messianique, d'une part, c'est contre-intuitif, ça échappe aux intuitions. Et deuxièmement, ça se passera de manière complètement inattendue. Et les coups d'accélérateur inattendus qu'on voit sont un peu à l'image de ce type de délivrance. Voilà ce qu'on peut dire sur ce point-là.
J'avoue à toi, en tout cas. Ce qui me fait penser, je vous offre un cadeau grâce à Rav Gay, puisqu'il nous a dit la semaine passée que Rav Volbe, c'est ça le cadeau, on a un enseignement de Rav Volbe, que lui, il a eu directement de... face à face, le mur de Berlin était tombé, et il lui a dit, Dieu, il fait comme ça. Il fait tomber d'un coup. Un truc, parce que les communistes ont fait un mal, Brejnev a fait un mal dingue aux juifs. dingue. Et Dieu fait tomber ça en une nuit, a dit Rav Volbeu. Et c'est ce qu'il a, il a dit. Souvenez-vous que c'est écrit Mahavir Memshelet Zedon Minaret. Ça passe comme ça, comme une c'est beau, non?
Hachem fait passer exactement, il fait passer comme une ombre,
comme ça.
L'ombre d'un oiseau, il fait passer ces gouvernements qui ont l'air tellement puissants et qui sont
la guerre du Golfe, tellement violents. La guerre du Golfe en deux minutes, ouais. Plus de guerre.
Terminé. Et là, c'est la même chose. En 11 jours, un tyran a disparu. Alors, je voudrais quand même dire aussi une chose qui est importante dans notre actualité, c'est que celui qui a construit les prisons, c'était Alois Brenner, qui était donc un nazi, qui a donc mis son expérience au service de Bachar el-Assad. Et on se rend compte à quel point il y a ici une hypocrisie vis-à-vis de Bachar el-Assad et vis-à-vis des puissances occidentales, parce que finalement, ils ont complètement fermé les yeux sur un régime qui était un régime nazi. Nazi, il n'y a pas d'autre mot. Et c'est intéressant parce que les partis baassistes, que ce soit en Irak ou en Syrie, avaient clairement des sympathies nazies. À réfléchir pour d'autres acteurs palestiniens ici, qui sont nos suite. Interlocuteurs, entre guillemets.
D'accord, quand on aura les otages le premier soir de Hanouka, j'ai bien compris.
Amen.
Amen, bien sûr. Ça tient que sur notre filette. Hein. Rav Mordechai Biton, je vous remercie. Et Shavuot Tov. Et Chag Hanouka Sameach.
Hanouka Sameach. Hanouka Sameach. La lumière dans le foyer.
Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Gueh. Bonsoir Rav Gueh, Shavuot Tov.
Bonsoir et Shavuot Tov.
Alors vous, Rav Gueh, vous voulez intervenir sur Hanouka. Donc bien sûr, c'est cette semaine. Et pour rester quand même, j'ai envie de dire, un peu lié à nos études hebdomadaires liées à la paracha, vous voulez, il faut savoir ce que moi j'ignorais, et c'est que Issachar est né un jour de Hanouka.
Tout à fait.
Alors donc, forcément, on connaît la Torah, donc il y a une raison. Pourquoi on s'en... Et c'est que vous allez nous expliquer maintenant.
Voilà, alors d'abord, je tire cet enseignement d'un livre qui s'appelle Bnei Issachar. Pardon, justement, c'est un livre qui a le nom de Issachar donc dans son titre, Bnei Issachar. Donc c'est un livre de Chassidout, très, très connu et très prisé. Ce Rav dit la chose suivante. On sait tous que Issachar donc, est né de l'union entre Yaakov et Léa. Mais Léa, vous le savez, c'était un moment un peu spécial. Elle ne devait pas rencontrer son mari cette nuit-là. Elle l'a littéralement loué, son mari. Elle l'a pris à des bras de Rachel en échange de doudaïm. Ce sont des fleurs, des mandragores. Pour certains, bon, en tout cas, c'est un bouquet de fleurs qu'elle a désiré, que Rachel a désiré. Et en échange... Rachel a laissé donc Yaakov dans les bras de Léa. C'est pour ça que Issachar s'appelle comme ça, parce que c'est Yesh Issachar. Il y a une récompense. Issachar est né, a été conçu à ce moment-là. Et je vous rappelle qu'il est écrit dans la Torah, Bimei Etzi Chitim. C'était à l'époque de la moisson, le moment où on moissonne le blé. Or, on sait tous que le moment de la moisson du blé, ça se fait à Shavuot. Et donc, le Bnei Issachar conclut, sachant que les Imavot, les matriarches, avaient donc des naissances prématurées, non pas 9 mois, mais 7 mois. Donc, il dit sans doute, ça s'est passé à Hanouka, la naissance de Issachar, conçu la nuit de Shavuot, naissance à Hanouka. Donc on fait un lien, ce Rav, dans son livre Bnei Issachar, fait un lien entre ces deux moments, Shavuot et Hanouka. C'est pas étonnant. Pourquoi c'est pas étonnant? D'abord parce que Issachar lui-même est un des membres du Sanhedrin. Les Sanhedrin sont composés de général de descendants de Issachar. Issachar, celui qui est le Chamor Gorem, c'est-à-dire l'âne, qui porte sur lui la charge, la lourde charge de répondre à des questions épineuses, c'est-à-dire le décisionnaire, le posek halakha, qui doit trancher des questions épineuses. Donc ça, c'est Yissachar qui a comparé à l'âne, non pas dans le, ce n'est pas péjoratif, mais l'âne qui porte lourd. Et donc il est né, il a été conçu à Shavuot, moment où on donne la Torah écrite. On donne les, évidemment à Aseret HaDibrot, ce fameux Mahamad Har Sinai. Mais il est né au moment où, de Hanouka, qui coïncide avec une nouvelle période qui va s'ouvrir dans l'histoire juive, c'est l'éclat, Zivam, la splendeur de la Torah orale. La Torah va se développer énormément après la période de Hanouka, après la période des Grecs. C'est là que la Torah orale va avoir un développement exceptionnel. Donc Torah écrite, Torah orale, ici donc il y a un développement incroyable. Et tout cela, c'est par le mérite aussi de Yissachar, entre autres, parce que Yissachar, c'est Léa qui veut absolument avoir des tribus, avoir encore des enfants de Yaakov, parce qu'elle veut être la maman du peuple juif. Et d'ailleurs, elle croyait tomber dans les bras d'Esav, elle a pleuré, elle a perdu un petit peu la beauté qu'elle avait au départ, parce que, tout simplement, elle avait toujours cette aspiration élevée d'être la maman des tribus d'Israël, et son salaire, c'est d'avoir Yissachar. Puis juste après, Zevulun, je vous rappelle, c'est celui qui finance Yissachar, ça donne entièrement à l'étude. Donc Zevulun le soutient financièrement. Donc c'est un duo inséparable, Yissachar et Zevulun. Donc elle aussi aura Zevulun. Et puis ça sera le cinquième et le sixième enfant de Léa, elle va s'arrêter là, pour laisser à Rachel le dernier garçon à naître, qui est Binyamin. Voilà ici un lien qui est fait entre Hanouka et l'éclat de la Torah orale pour nous rappeler que même si on parle d'obscurité, on parle surtout de lumière dans l'obscurité. Et la façon d'éclairer l'obscurité, c'est justement à travers la Torah orale. C'est quoi la Torah orale? C'est une recherche personnelle très approfondie où il y a vraiment un investissement profond de chacun pour arriver à la vérité. Évidemment, tout le monde est invité à le faire. Il n'y a que quelques-uns qui auront le mérite de voir leurs décisions et leurs explications retenues. Mais c'est une recherche personnelle, une envie et une aspiration très profonde qui doit nous animer. Effectivement, Léa, elle a cette aspiration et elle va avoir une récompense. Hanouka, cette semaine, ce sera donc mercredi soir, l'allumage de la première bougie. Chaque soir, une bougie d'en plus, évidemment, et il s'agit effectivement le maximum d'essayer d'allumer à l'heure si on peut, c'est-à-dire au moment de la sortie des étoiles pour la plupart des décisionnaires. En ce moment, c'est environ 6 heures moins le quart. Essayer d'être à l'heure et de le faire chez soi, absolument, il faut le faire dans sa maison, à l'heure, avec sa famille, de manière à ce qu'il y ait ce qu'on appelle un pirsomanes, que le miracle soit publié, reconnu, mais surtout c'est dans un domaine privé. Ça ne s'allume pas dans un domaine public, ça s'allume à la synagogue, mais on n'est pas quitte de l'allumage de la synagogue. Il faut absolument allumer dans sa maison, même si on a écouté à la synagogue. Parce qu'il faut que notre maison à nous, notre domaine privé, éclaire le domaine public. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que cette lumière de la Torah nous anime et qui est notre domaine privé, c'est-à-dire qu'elle nous éclaire notre intimité, notre vie quotidienne, eh bien cette lumière privée, intime, doit avoir une telle puissance qu'elle doit éclairer l'extérieur. Le domaine public, c'est l'endroit où il y a un peu tout le monde qui se promène, mais il faut que notre Torah orale nous habite tellement profondément qu'elle rayonne, et qu'elle rayonne au-delà de notre domaine privé. Et donc ça, c'est un peu la dimension de la Torah orale, qui est celle qui doit être d'abord un travail interne, mais il faut aussi que ce soit une lumière pour les nations. Une lumière pour tous, parce que c'est grâce à la Torah orale que nous sommes et nous résistons aux difficultés et de l'épreuve de l'exil. Et donc, cette Torah orale nous a protégés, nous a accompagnés. Et c'est à Hanouka. Alors, vous allez me dire, la Torah orale, elle a été donnée au Sinaï, c'est vrai, elle a été donnée au Sinaï. Mais nos sages nous parlent de l'éclat, d'une dimension nouvelle, d'une multiplication des centres d'études, multiplication des centres d'études de rabbanim. Même s'il y a beaucoup de discussions, mais cette discussion donne lieu à justement à une vie intense, une sorte de vibration incroyable. Et tout ça, nous dit le Rav, c'est un peu nous sommes les descendants de l'approche de Issachar. Et nous le disons dans le Maotsur, Bene Bina, Yemi Shmona. Bene Bina, Bina, on dit de Issachar qu'il a la Bina. Bina, c'est la capacité de déduire une chose d'une autre, de comprendre les choses avec une analyse fine. Et donc voilà, nous sommes, grâce à Issachar, les fidèles élèves de Issachar, et nous sommes capables de découvrir la huitième dimension. La huitième dimension, c'est celle qui est métaphysique. Parce que si on est capable d'apprendre des choses et de déceler ce qu'il y a derrière les mots, eh bien on est capable d'aller au-delà de ce que nous voyons a priori et donc de rentrer dans les profondeurs de la Torah orale. Voilà ce que je voulais d'abord souhaiter à toute la communauté, de très belles fêtes de Hanouka, et que ces fêtes-là coïncident à une Géoula totale et entière avec la venue de Mashiach. Amen.
Amen. Et que cette petite lumière arrive à éclairer effectivement... Loin, loin. Je crois, sous votre contrôle, Rav, que... bon, en plus, c'est la période des vacances, c'est important de rester un petit peu à côté, d'être en famille, de ne pas allumer comme un riouv et on s'en va.
Oui, c'est un moment de convivialité, un moment familial, comme vous dites. On essaye de réfléchir aussi au sens de cette lumière dans l'obscurité. De l'obscurité, je pense qu'on est tous conscients qu'on en a beaucoup tout autour de nous. Mmh. Mais est-ce qu'on est conscient qu'on a une belle lumière en nous et dans la Torah ? Ça, c'est moins évident. Il faut en être conscient. Il faut allumer. Alors, en y pensant très fort, qu'on va essayer de se renforcer dans la compréhension approfondie des textes. Pas juste être passif et écouter des discours, mais d'essayer soi-même de prendre les textes, de les comprendre et de les approfondir.
Donc, et de profiter de ces vacances, je répète, pour lire un peu justement devant ces bougies. Rav, merci. Voilà. Merci pour ces très belles paroles. Je vous souhaite donc, dans l'ordre, Shavua Tov et Chag Sameach.
Shavua Tov et une très bonne fête de Hanouka.
Shalom leboy na boy, Hashem lo yishmari, shalom shokat shoy me.